Effectivement, on va poursuivre notre doctrine de l'Église et terminer ce matin. On va continuer cette doctrine. La semaine dernière, Alain nous a présenté l'Église comme l'épouse de Christ, si vous étiez présent. Je vais me placer dans la continuité de son message, je vais prolonger un petit peu ce qui était dit. Je vais choisir pour ça un passage qui va peut-être vous surprendre, c'est peut-être pas le plus approprié. On le trouve dans Genèse chapitre 1, on va lire versets 26 à 27. On est dans Genèse 1 en ce moment avec les couples, même dans l'étude biblique du jeudi, il y a 15 jours, on était aussi dans ces passages-là. Genèse, ce qui est formidable, c'est que c'est le début de l'humanité, évidemment, c'est le début de tout, et on trouve la racine de tant de choses, et notamment de l'Église. Genèse, chapitre 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Puis ensuite, on va prendre chapitre 2, les versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que Dieu lui donnerait, que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. On va prier. Seigneur, c'est dans ta parole que nous voulons puiser la sagesse dont nous avons besoin, la sagesse qui vient de toi, qui est divine, celle que tu as mis devant nous pour que nous puissions grandir et te connaître. Seigneur, parle à nos cœurs à présent, ouvre ta parole pour que nous puissions bien la comprendre. En Jésus-Christ. Amen. Alors, on va détailler ce passage verset par verset pour bien comprendre le plan de Dieu. Tout d'abord, on va revenir au verset, chapitre 1, verset 26. Chapitre 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Toute la création. Verset 27. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Alors, on voit ici tout d'abord que Dieu crée l'homme. Et il ne le crée pas n'importe comment. Il le crée à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Si on est attentif, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu, pas la femme. C'est uniquement l'homme ici, hein, parce que sinon Dieu aurait pu dire « Dieu créa l'homme et la femme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Mais c'est quand même bien précisé que c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu, et pour l'instant, pas la femme. Et donc il y a ce premier homme, Adam, première créature formée par l'Éternel. Cet Adam de l'Ancien Testament va symboliser Jésus-Christ. Il va représenter le Christ que l'on connaît dans le Nouveau Testament. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. L'apôtre Paul nous dit, c'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Donc ici, on a un premier Adam dans la Genèse, et on a le dernier Adam, donc c'est Jésus-Christ. Il y a plein de parallèles entre les deux personnes. L'Ancien Testament commence par la naissance d'Adam. Le Nouveau Testament commence par la naissance de Jésus. Leur père, le père d'Adam, c'est qui ? C'est Dieu lui-même. Hein ? Le père de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que deux créatures si on peut dire. Il n'y a que Adam et Christ qui ont été créés directement par Dieu, finalement. Ce sont les deux seuls. Ils ont vécu tous les deux auprès de Dieu lui-même. Adam, il était avec Dieu dans le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ, si on est attentif dans d'autres passages de la Bible, au moment de la création du monde, Christ est avec lui aussi. Ensuite, c'est les deux seuls êtres qui ne sont pas nés de l'union entre un homme et une femme. Adam, il était tiré du sol, et Jésus, il a été créé directement par Dieu. Il était Dieu de toute éternité, donc il y a une petite part de mystère, mais en tout cas, il n'est pas né de l'union entre un homme et une femme. Adam, il a un père, pas de mère. Jésus, il a une mère, pas de père, si on peut dire. Enfin, bien sûr, c'est Dieu lui-même, mais en tout cas, humainement, il n'a pas eu de père. Donc, beaucoup de traits de caractère entre les deux. Et ce qu'on voit, c'est qu'Adam, il a été créé physiquement à l'image de Dieu. Hein. Au départ, Adam, est-ce qu'il a du péché en lui, Adam, au départ, à sa création ? Non. Créé sans péché, comme Jésus-Christ. Pareil, tous les deux. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est le Fils à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Regardez, Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils, Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Confirmation qu'il est bien aussi à l'image de Dieu. Premier-né de toute la création, comme Adam, hein, quelque part. Hein. Donc Adam, il a une épouse que Dieu lui donne, qu'on a lu à travers ces versets, c'est Ève. Donc, si on fait un parallèle, Jésus aussi a une épouse, et son épouse, Alain nous l'a expliqué dimanche dernier, c'est l'Église. Alors regardez maintenant versets 21 et 22, chapitre 2 de Genèse. Genèse 2, versets 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Adam est endormi par Dieu qui va lui extraire une côte et il va en faire une femme. On avait eu l'occasion de voir que, c'était avec les couples, tous les animaux ont été créés à partir, c'est Dieu qui les avait créés à partir de rien, Adam à partir de rien, et la femme, c'est la première créature qui a été formée à partir d'un autre être humain, de la chair également. Donc pour donner naissance à Ève, Dieu va faire la première opération chirurgicale, anesthésie générale de l'histoire, il va endormir Adam. Heureusement, parce que sinon il aurait certainement souffert. Et c'est un parallèle avec l'Église, les amis. Parce que pour que Ève naisse, il faut que Adam dorme. Et pour que l'Église naisse, il a fallu que Jésus dorme d'une certaine façon, qu'il meure. Il a fallu que Jésus meure pour donner naissance à l'Église. Et là, on voit que pour donner naissance à Ève, il faut qu'Adam dorme. Et Ève est extraite d'Adam, comme l'Église est extraite de Jésus-Christ, dans une autre image. Et tout l'amour de Dieu se résume dans cet acte, parce que Dieu aurait pu être un Dieu cruel, d'une certaine façon, ou juste, si on veut, parce qu'il n'y avait pas encore eu de péché à ce moment-là, mais il aurait pu faire souffrir l'homme en disant, Ève va sortir de toi, par la douleur, tu vas devoir souffrir pour donner naissance à Ève. Dieu, il a endormi Adam. Il était bon avec lui, il aurait pu le faire souffrir. Hein. On voit l'amour de Dieu, hein, qui ne fait pas souffrir les hommes par cruauté. Hein. Dieu n'est pas un Dieu cruel. Et on voit aussi son amour parce que pour que l'Église naisse, ce n'est pas les hommes qui ont souffert, c'est Jésus qui a souffert. C'est-à-dire, tu l'as dit, hein, Gilles, dans ton témoignage, ou Eddie aussi tout à l'heure, notre vie, elle est remplie de péchés. On a beaucoup péché, tous ici, tous les uns les autres. Dieu aurait pu être juste et faire tomber sur nous ce châtiment. À partir de maintenant, c'est les hommes qui souffrent. Mais Dieu est bon et il a préféré que ce soit Jésus-Christ qui souffre à notre place. Nous n'avons pas un Dieu cruel, les amis. Nous n'avons pas un Dieu qui n'a pas de compassion, nous avons un Dieu qui est bon et qui ne veut pas que l'homme souffre. Mais ça veut dire aussi que par rapport à l'Église, on n'a aucune part, on n'a aucun mérite. On est des serviteurs inutiles. L'Église n'est rien parce qu'on est quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on prend la parole au micro que l'Église est plus belle ou je ne sais quoi du tout. On est des serviteurs inutiles. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Simplement, il nous fait participer aussi. Verset 23. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. On voit que Adam, il est quand même assez admiratif. On sent un peu d'admiration quand il voit Ève. Elle devait être très belle, évidemment. Hein. Elle est parfaite, comme lui l'était aussi. Il était fait à l'image de Dieu. On imagine qu'elle devait être magnifique aussi, comme il l'était. Il faut qu'on soit toujours ébloui de tout ce que Dieu fait, les amis, dans la création. Ne nous lassons pas d'être émerveillés de la création de Dieu. Et il voit cette femme qui est décrite. C'est lui qui le fait, Adam. Il dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. L'Église, elle est terrestre aussi. Hein. Elle est composée, on est tous fait partie de cette Église et on est des êtres de chair et d'eau aussi. Hein. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, comme on le dit souvent. C'est nous, c'est les chrétiens, l'Église, c'est ceux qui la composent. Et elle est faite aussi des mêmes os et de la même chair. Que Christ, qui était un être humain, Dieu fait homme, mais Christ est venu en chair. De la même façon, l'Église est chair également. Mais c'est aussi la raison pour ça, hélas, que l'Église, malheureusement, elle n'est pas exempte de tout péché. Quoi. Et qu'on trouve encore dans les églises du péché, malheureusement. On en trouve parce qu'elle est composée de pécheurs, tout simplement. Et donc, par déduction, l'Église est encore empreinte de péché. Et rappelez-vous le petit détail au début, c'est juste l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme, le parallèle, c'est Jésus-Christ. Pas la femme. Elle n'a pas été créée à l'image de Dieu. Et l'Église, on voit qu'elle est encore dans son péché aussi, malgré tout. Cette Église, elle n'a pas été conçue au ciel, elle n'a pas été conçue pour les anges, elle a été fondée par Dieu dès le début de la création. On voit que dès la Genèse, les tout premiers versets, on voit l'arrière-plan que Dieu a. Une Église, une épouse pour Adam, donc une épouse pour celui qui sera le dernier Adam ensuite. L'Église, c'est la partie terrestre du projet. C'est un projet qui a commencé ici-bas, qui se poursuivra dans le ciel. On va le voir tout à l'heure. Verset 24. On descend, tous les versets qu'on a vus ce matin. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Ici, on a l'institution du mariage. Le mariage, c'est un plan divin, les amis. Autant le Pax, non. Autant le mariage... C'est divin. C'est pour ça que ceux qui disent « je me marie mais pas à l'Église », ça n'a pas de sens finalement, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc voilà, l'union civile à l'ennemi s'ils veulent, quoi. Une CP du mariage. Le mariage, ça symbolise aussi la vie chrétienne. Vous savez, dans les trois étapes du mariage, il y a les fiançailles, le mariage et la vie commune. Les fiançailles, c'est une période pour apprendre à se connaître. C'est une période où on se découvre, etc. La lecture de la Bible que Dieu nous a laissée, c'est aussi une façon de découvrir le Seigneur. Je me rappelle très bien ton témoignage, j'ai dit, toi tu t'es converti en lisant ta Bible. Tu as trouvé le Seigneur dans la Bible en fait. Voilà. Cette période de fiançailles, c'est aussi la lecture de la Bible qui peut nous permettre de connaître Dieu. Après le mariage, c'est quoi? Si on suit bien la découverte de Dieu, ensuite on se marie, c'est la conversion. Voilà. Comme on a entendu ce matin avec Gilles. D'ailleurs, Dieu il parle d'une alliance avec son peuple. On parle bien d'une alliance aussi, on a gardé la même image. Et puis ensuite, il y a la vie commune. Là, c'est la marche avec Dieu, tous les jours. Alors ceux qui sont mariés savent que, parfois, il y a des difficultés. Et bien dans la vie chrétienne, parfois, et tu l'as bien exprimé, Gilles, ce matin, ça peut arriver que... Voilà. Il y a aussi des petites variations. Mais on se jure quoi au mariage quand on se marie? On se jure fidélité. Donc on doit aussi être fidèle au Seigneur. Regardez avec moi dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Voilà comment on doit aimer le Seigneur, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Voilà. C'est le commandement, le premier et le plus grand. On doit être fidèle à Dieu. Alors ce passage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront qu'un. Chapitre 2, verset 24. Celui-ci répond à beaucoup, beaucoup de questions de société. Vous savez, le mariage, il a été remis sur la table. Il y a eu beaucoup de débats il y a quelques années, si vous étiez en France à cette époque, sur le mariage, le fameux mariage pour tous, qui était le mariage homosexuel. Ce verset-là répond à beaucoup de questions. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce qu'on peut ici légitimer le mariage homosexuel ? Non, aucunement. Ici, il n'est pas du tout fait mention. Homo, en grec, ça veut dire semblable. Hétéro, c'est différent. Ici, on ne voit pas d'homo quelque chose, quoi. C'est un homme, une femme, l'homme s'attache à sa femme. On a une question de société ici, on a répondu. Est-ce que ce verset légitimise la polygamie qui est pratiquée dans certaines religions encore aujourd'hui ? Pas du tout. Un homme, une femme, l'homme s'attache à sa femme. Donc, ça répond aussi également à cette question-là. Est-ce qu'on peut légitimer la fornication ? C'est-à-dire le changement de partenaire, etc., régulièrement ? Pas du tout. Le divorce ? Non. L'adultère ? Je crois que tout est assez clair, hein ? Tout est assez précis ici. Hein ? Si l'homme cherche encore des questions à savoir, aujourd'hui, on dit... Oui, mais le monde, ce n'est pas celui d'il y a 2000 ans, du temps de la Bible, etc. Je crois que ces valeurs-là, elles sont dans le cœur de chacun, et chacun sait bien, de toute façon, le plan de Dieu. Mais alors, si on extrapole, si on reprend cette image-là pour la reprendre avec Christ et l'Église, est-ce que Christ, on a parlé d'homosexualité, est-ce que Christ s'est attaché à une personne de la même condition divine que lui ? Dieu aurait pu faire Christ, divin, une autre créature divine, les unir, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas son plan ici. Ce n'est pas son plan. Il a bien choisi des personnes de chair et d'os comme nous. Est-ce que Christ... Polygamie, est-ce que Christ s'attache à d'autres religions ? Les hommes changent de partenaire, est-ce que Christ change de religion ? Est-ce qu'à un moment, c'est les chrétiens ? Puis après, il va prendre des bouddhistes ? Et puis, il en a marre des bouddhistes, il va prendre les témoins de Jéhovah. Il en a marre des témoins de Jéhovah, il va aller reprendre les juifs. Il va pas prendre les juifs. Il va aller vers l'islam. Enfin, est-ce qu'on voit que Jésus fait des sauts de puce comme ça entre partenaires ? Du tout. Du tout. Dieu, il est resté fidèle. Il a pris les chrétiens à partir du plan de l'Église et il reste fidèle. Le rejet d'Israël n'est pas global. Hein. Israël s'est détourné de Dieu, mais Dieu ne s'est pas détourné d'Israël. Hein. Les juifs sont les bienvenus dans les églises et ceux qui se convertissent sont reçus par Dieu. Hein. Dieu ne les a pas condamnés. Hein. Ils sont toujours là, c'est juste à eux de venir. La fornication, est-ce que Dieu a changé d'épouse ou de conjointe ? Non, restez fidèle. Le divorce, est-ce qu'on peut perdre son salut ? Non. Ah non. Dieu est fidèle, pas de divorce. À partir du moment où il fait une alliance, Dieu ira au bout. Alors, parfois, on voit que les hommes, ils ont souvent du mal. Mais Dieu, lui, est fidèle, il ne rejette pas. Dès qu'il a sauvé, dès que quelqu'un est sauvé, il ne peut plus perdre son salut. C'est dans cette image-là. L'adultère. Vous savez, Jésus dit, au-delà d'adultère, c'est regarder simplement quelqu'un avec de la convoitise. Pour lui, c'est un adultère. Est-ce que Jésus-Christ regarde les autres religions avec convoitise ? Est-ce que parfois, il ne se dit pas, allez, chrétiens, j'en peux plus là. Ils sont trop compliqués là. Ils me pourrissent la vie. Je ne suis pas en paix. C'est la raison de tous mes problèmes. Je ne sais pas pourquoi je me suis marié avec eux. Ah, les autres religions. C'est tentant quand même. Hein. Ah, cette religion-là est tellement plus belle, tellement plus jeune, tellement plus dynamique, tellement... Voilà. Est-ce que Jésus agit comme ça ?
Plus moderne.
Oh, plus moderne. Le look est peut-être plus actuel, les cantiques, tout ça. Est-ce que Jésus agit comme ça ? Heureusement pour nous, non. Si Dieu était comme nous, aïe. Au contraire, Adam a eu une seule femme. Nous devons adorer un seul Dieu. Et un seul et lui rester fidèle toujours. Si on paraphrase le verset, on pourrait dire « C'est pourquoi l'homme quittera le monde, sa vie ancienne, il s'attachera à Jésus-Christ et ils ne feront plus qu'un. » C'est la même image. « C'est pourquoi l'homme quittera le monde, s'attachera à Jésus-Christ et ils ne feront qu'un. » Voici la promesse de Dieu en retour. Marc 10, versets 29 à 30. Marc 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. On peut quitter hein, sa famille, le monde, etc. pour se marier à Jésus-Christ. Il y a des belles promesses après. Hein. Ah, il n'a pas dit que ce sera parfait de tout repos, hein, mais il y a quand même des belles promesses. Le Seigneur est fidèle. Alors, un couple, un homme et une femme, pour le plan de Dieu, c'est Jésus et son Église. Je vais avancer. Non, ça va, j'ai le temps. J'ai le temps, moins 25, c'est bon. On va regarder après, dans ces conditions, la femme mariée selon la Bible. Alain, la semaine dernière, nous a parlé de cet aspect-là. Éphésiens 5, versets 22 à 24. On va répondre peut-être à certaines questions que les dames pourraient se poser. Après, on va voir les hommes, rassurez-vous. N'allez pas vous en tirer comme ça. Éphésiens 5, versets 22 à 24. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Donc les femmes, elles représentent l'Église, hein, représentent l'Église dans ce passage-là, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ. Alors si une femme se pose la question « Comment je dois me comporter dans mon foyer vis-à-vis de mon mari ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est la bonne attitude ?» Ben, elle devra réfléchir sur l'attitude de l'Église par rapport à Jésus-Christ, vu que dans le couple, la femme, c'est l'Église. Comment agit l'Église avec, par rapport à Jésus-Christ ? Dans son attitude, elle doit être dévouée et soumise. C'est le cas, l'Église se soumet à Jésus-Christ, sous son autorité. Alors je sais que le mot soumission, ça pose problème. Okay. On est d'accord. Mais est-ce que c'est écrit ici que les maris devaient soumettre leurs femmes ? Non ? C'est les femmes qui doivent se soumettre à leur mari. Il n'y a pas le rapport de soumission. Dieu ne dit pas, voilà, les hommes vont écraser les femmes et les soumettre. Ça se dit dans certaines religions, mais pas chez nous. Hein. Ce n'est pas ce que dit Dieu dans la Bible. Hein. Il dit, femmes, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Elle ne dit pas au mari d'exercer cette autorité un peu négative. Quoi. C'est une soumission volontaire. Et dans le parallèle entre l'Église et Jésus-Christ, la soumission du chrétien est volontaire. Dieu ne soumet jamais par force une conversion. Dieu ne va pas écraser quelqu'un pour qu'il se soumette de force. Certains courants de pensée disent que c'est Dieu qui impose, etc. L'homme a la décision. Mais Dieu ne lui impose rien du tout. Gilles, Dieu ne t'a pas forcé. Je crois que tu pourrais le dire. Et moi, je peux le dire par ma conversion. Dieu m'a amené à le connaître et à prendre une décision à un moment. À aucun moment, Dieu ne va soumettre de force. C'est une soumission volontaire. Comme dans le cas de la femme avec son mari. C'est une soumission volontaire, qui est pure, qui est bonne, parce que c'est Dieu qui le demande. Les maris, à vous. Éphésiens 2, versets 25-29. Éphésiens 5, versets 25-29. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Alors maintenant, dans ce parallèle, c'est les maris qui reflètent l'image de Jésus-Christ, finalement. Alors si un homme se pose la question « Comment je dois me comporter vis-à-vis de mon épouse ?» Eh bien, il doit être à l'image de Jésus-Christ par rapport à l'Église. Et comment Christ aime son Église ? Il aime d'un amour inconditionnel, sans condition. Il aime son Église et il s'est sacrifié pour son Église et il s'est donné lui-même pour son Église. Alors, comme l'Église aussi, les femmes, elles ne sont pas toujours très drôles. Tu l'as dit la semaine dernière, Alain, et c'est vrai. Hein, les femmes, elles ne sont pas toujours rigolotes. Elles sont parfois, elles ont du tempérament, elles veulent s'imposer. La soumission, voilà. Par contre, elles aiment bien parfois prendre un peu la main, etc. Elles ne sont pas toujours faciles. Mais l'Église n'est pas facile non plus. Pour Christ, je ne crois pas qu'on soit une œuvre facile non plus, si on connaît un petit peu nos assemblées. Alors, si un homme se demande comment il doit agir envers sa femme, la réponse sera comme Jésus-Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il doit se comporter avec amour, un amour inconditionnel. Pas l'écraser, ce n'est pas la façon dont Christ agit, il doit l'aimer avec amour. Et si la femme donc se demande comment gérer avec son mari, bah c'est avec soumission et respect, c'est la même image. Voilà. Et c'est ainsi que le couple reflétera vraiment l'amour entre Christ et son Église. Verset 25, ça donne quoi finalement cette relation quand elle est basée sur les commandements de Dieu, l'attitude que Dieu attend ? On reprend Genèse 2, verset 25, c'est le dernier verset qu'on avait lu ce matin. Ce sera ma dernière partie. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. On a vraiment l'image de pureté ici, ils sont tous les deux nus, il n'y a pas encore le péché, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de méchanceté, voilà, ils sont tous les deux dans une relation pure. Et la Bible utilise l'image de la pureté du mariage justement pour imager cette relation entre Dieu et l'Église. Cette image, elle nous démontre l'amour parfait et pur que Dieu a pour elle. Un homme, une femme qui vivent tous les deux sans avoir honte et dans un parfait équilibre. Le Seigneur aime son épouse, le Seigneur aime son Église. Vous savez qu'il nous aime, hein. Et on pourrait le dire, hein, le Seigneur est fidèle. Hein. Dans les moments difficiles, parfois il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes autres dans les églises, le Seigneur est toujours là. Regardez dans Ésaïe 54, verset 10. L'amour que Dieu a pour sa création et pour le sujet qui nous concerne pour l'Église ce matin. Ésaïe 54, 10. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Dans les couples aussi, hein, des fois quand ça va mal, on a tendance à dire le plus simple. Alors je l'entends tellement au travail, et vous le devez l'entendre aussi tout le temps. On a divorcé parce qu'on ne s'entendait plus, il y avait trop de problèmes. Est-ce que le fait d'avoir divorcé a réglé les problèmes ?
Non.
Est-ce qu'il a augmenté les problèmes ? Oui. Parce qu'il y avait des enfants, il y avait peut-être parfois du patrimoine, des machins, enfin des impôts, des trucs. Le fait de divorcer n'aurait aucun problème. Il complique la situation. Le Seigneur lui dit, le Seigneur ne parle pas de divorce, de séparation, de je ne sais quoi. Il dit, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, et il dit ça parce qu'il connaît très bien notre infidélité, eh bien le Seigneur nous dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Le Seigneur aime son épouse. Il prend soin d'elle. Et puis on a vu aussi qu'il lui est fidèle. Jésus n'est pas parti vers d'autres religions, chercher d'autres personnes. Hein. Il est resté fidèle à son Église. Et il ne la répudie pas non plus malgré ses faiblesses. Voilà, il aurait pu divorcer. Les hommes ont divorcé avec Dieu. Oui, bien sûr. Les hommes ont divorcé avec Dieu. Ça fait déjà bien longtemps. Mais Dieu, lui, il est resté fidèle. Il n'a pas divorcé avec les hommes. Et il appelle encore aujourd'hui. Alors pour conclure, on pourrait redire un petit peu qu'après avoir créé le monde, le Seigneur n'a pas voulu que l'homme reste seul. C'était pas son plan. Il s'est dit, il est tout seul. C'est pas bon qu'il reste seul. Alors il lui a donné la femme, une compagne qui est son aide, son vis-à-vis, c'est-à-dire son alter ego, hein, comme ça avait été dit. En leur commandant quoi ? De s'unir et de se multiplier. Donc le mariage, on l'a vu, et la famille sont des institutions divines fondées par Dieu lui-même. Ne détruisons pas ce que Dieu a créé, surtout. Mais le problème, c'est que très rapidement, le péché a sali le mariage. Il a sali cette union-là. Et l'homme d'aujourd'hui rejette le mariage comme il rejette aussi le plan de Dieu. Hein. Quand l'homme rejette le mariage, il rejette aussi le plan de Dieu. Hein. C'est un package hein, qu'il fait. Hein. C'est tout. Hein. Il rejette tout. Néanmoins, l'Éternel est bon, c'est à travers Jésus-Christ qu'il choisit de réconcilier les hommes avec lui. Le plan de Dieu, c'est de réconcilier l'homme et lui à travers Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit avec l'Église. Et c'est... Ah ben, il n'y a plus le verset dans Jean. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père sans passer par moi. » Il est de l'autre côté, c'est la suite du verset. Voilà. On n'arrive pas au Père sans passer par Jésus-Christ. Le plan de Dieu, c'est La création, il connaissait très bien la chute ensuite, il avait déjà tout prévu. La rédemption se fait par effusion de sang, comme tu l'as dit, Eddie, ça passe par le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, être réconciliés avec lui, il faut passer par Jésus-Christ. C'est uniquement par lui qu'on peut trouver le salut et le pardon de Dieu. Alors mes amis, si la Bible commence par un mariage, bonne nouvelle, elle finit par un mariage. Regardez avec moi, dans Apocalypse 19, voilà, il y aura un deuxième mariage qui sera encore bien plus glorieux. Apocalypse 19, versets 6 à 9. La parole de Dieu nous décrit un moment merveilleux, c'est les noces de l'agneau. Christ, avec celle qu'il a choisi, il a marié l'Église. C'est la fin des temps là, tout se finit. J'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici le moment venu des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Serez-vous invités aux noces de l'agneau? Qui sera invité parmi vous aux noces de l'agneau ce matin? Levez la main, ceux qui savent qu'ils seront invités aux noces de l'agneau. Amen. Le faire part, il est là, hein. Il a déjà été envoyé il y a 2000 ans. Hein. Voilà, simplement on n'a pas la date. Mais Dieu a tout prévu déjà. Il y a certaines modalités, voilà. Et c'est bien précisé, écrit « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau » et il y ajouta « Ce sont là les paroles authentiques de Dieu. » Ça, c'est très important aussi. C'est Dieu lui-même qui le dit. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas tant que ça. Hein. Dans l'Ancien, il y a beaucoup de... Les écrits avec Moïse, on voit que Dieu parle beaucoup, etc. Par les prophètes, il parle. Dans le Nouveau Testament, des paroles authentiques de Dieu, si on enlève celle de Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, bien sûr... Regardez bien ensuite dans le Nouveau Testament, quand c'est Dieu qui parle lui-même, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand il y a le baptême de Jésus où Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout », écoutez-le, ça c'est une parole authentique de Dieu. Et après, c'est dans l'Apocalypse où on retrouve notamment ce verset qui dit « Écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau ». Dieu parle et il met le sceau à la fin de l'Apocalypse en disant « C'est moi, je certifie, c'est moi Dieu qui le dit ». Donc il faut l'écouter avec autorité, et ces versets-là doivent vraiment nous toucher en disant « Est-ce que je serai invité aux noces de l'agneau ?» Les faire-part ont été envoyés. Est-ce que j'en ai reçu un? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je serai présent? Alors on va prier à présent. Je vais vous donner l'opportunité, si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas encore en paix avec Dieu, si vous avez reçu là ce faire-part, vous avez entendu cet appel, mais que vous n'êtes pas encore sûr d'être... Parmi les invités, on va prier, on va vous laisser l'opportunité de le faire. Seigneur, c'est un couple magnifique que tu crées, Seigneur, au départ. Un homme, puis une femme, Adam et Ève. Conçus sans péché, merveilleux, Seigneur, parce que ta création était très bonne, excellente. Et puis le péché est venu rapidement, il a montré la faiblesse de l'homme tel qu'il est dans sa chair, pécheur. Seigneur, nous ne pouvons pas les accuser, nous aurions fait pareil. Seigneur, c'est la chute de l'homme, de la femme, de l'humanité tout entière. Mais c'est aussi, Seigneur, cette image, celui d'un homme, le dernier Adam, Jésus, créé sans défaut, sans péché, parfait, et qui n'a pas péché, justement. Lorsque le diable est venu le tenter, il a résisté et il est resté pur et saint devant toi. Pas comme Adam, ni comme Ève. Et Seigneur, tu lui as préparé une épouse qui est l'Église que nous représentons ce matin. Et tu veux que nous soyons dans nos couples, dans nos vies, même pour ceux qui sont célibataires, à l'image de cette relation entre toi et ton Église. C'est-à-dire nous devons être soumis et respectueuses, Seigneur, de ton amour. Nous savons qu'en retour, tu nous promets un amour fidèle, sincère et pur, que rien ne peut nous séparer de ton amour, que le salut que nous avons acquis par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, est un salut éternel, Seigneur. Rien ni personne ne pourra nous le reprendre. Seigneur, nous sommes dans la joie de savoir qu'il y aura un jour un mariage au ciel, un mariage glorieux, Seigneur. Ils sont beaux nos mariages, Seigneur, lorsqu'on marie des personnes ici. Mais celui que tu as préparé sera bien plus beau, Seigneur. Ce sera l'accomplissement de tout. Seigneur, tu as écrit « Heureux ceux qui seront invités aux noces de l'agneau ». Tu sais les cœurs, Seigneur, ce matin. Tu sais ceux qui sont invités. Seigneur, tu as lancé les invitations. Certains ont répondu déjà, Seigneur. Et puis il y a ceux qui ont entendu l'invitation, qui n'ont pas encore répondu. Et quand on est invité, il faut répondre. Alors Seigneur, je te prie pour que ce matin, tu puisses ouvrir les cœurs et que ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel puissent le faire à présent. Je vais vous demander si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, si vous êtes encore loin de lui, si vous souhaitez ce matin répondre à l'appel de se faire part. Souhaitez-vous être invité aux noces de l'agneau? Souhaitez-vous être présent? Ceux qui, tout à l'heure, n'ont pas levé la main, est-ce que vous souhaitez le faire à présent? Le Seigneur vous appelle en disant « Je t'invite aux noces de l'agneau. Sois heureux, viens. » Qui veut le faire ce matin? Je vous invite à le faire dans votre cœur, hein, si vous êtes un peu timide et si vous n'osez pas, faites-le avec Dieu. Pas besoin que nous le voyons, c'est entre vous et lui. Faites-le si vous n'avez pas la force de le faire devant tout le monde, faites-le dans votre cœur en tout cas. Seigneur, tu connais les cœurs, bien sûr. Nous voyons le visible, toi tu vois l'invisible, Seigneur, et c'est ce qui est le plus important, Seigneur. Nous voyons que l'apparence, toi tu sondes les cœurs, tu les perces. Seigneur, tu sais qui a pu répondre ce matin. Peut-être qu'à l'instant même, il y a d'autres endroits du monde, des gens qui vont donner leur vie à toi, ou peut-être tout à l'heure, avec les décalages horaires. En tout cas, nous prions, Seigneur, que beaucoup de personnes répondent à cet appel et viennent à toi, Seigneur. Nous voulons hâter ton retour, nous voulons faire nos efforts, Seigneur, pour proclamer ta parole, Seigneur, pour qu'elle soit annoncée et que les gens répondent. Mais Seigneur, c'est toi qui convertis et nous te demandons de faire, Seigneur, qu'ils puissent répondre, Seigneur, que rien ne les éloigne de toi à présent. Nous sommes heureux pour ceux qui sont revenus à toi aussi, qui s'étaient éloignés, et nous prions pour ceux qui sont avec toi, pour que tu les affermisses et les gardes. Et nous prions pour ceux qui viendront à toi, pour que, Seigneur, tu les affermisses en toi et qu'ils aient une joie profonde dans leur cœur. Nous t'en prions, pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen.